Et lorsque l'acte unique sera adopté par les 12, l'Europe va vraiment devenir une zone unique sans frontières, un marché unique de 320 millions de consommateurs. Alors bien sûr, cela suppose de supprimer toutes sortes de barrières techniques, douanières. Au bout du compte, un marché trois fois grand comme celui du Japon.
Abattre les barrières, sans frontières, une Europe unie, tous ces mots sont vraiment merveilleux. Et je ne comprends pas pourquoi, en 2005, les Français ont traîné les pieds, enfin, ont même dit non, quoi.
Ah, moi je le sais parce que Serge Julie me l'a dit.
Ah.
Oui, ils sont racistes, frileux et feignants. Donc, c'est la raison. Non, ce qui est très intéressant là, dans cette histoire d'acte unique, je
c'était
trouve...
C'était le 20 novembre 1986, ouais, sur Antenne 2.
Oui, 20 novembre 1986. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en deux coups déjà, on voit se dessiner l'une des tendances les plus profondes et les plus structurantes de la vie politique française, à savoir le grand accord, la grande convergence des partis gouvernementaux sur la question européenne. Alors là, c'est le truc qui va résister à absolument toutes les alternances, parce que c'est une question tellement profonde, et je le redis, tellement structurante, qu'elle va de fait rendre toutes ces alternances électorales absolument stériles, puisque ce seront des alternances sans alternative. Alors voici la séquence. Le lancement du processus qui doit conduire au grand marché, c'est le sommet de Fontainebleau 1984, Mitterrand est aux manettes. L'acte unique qui en est le produit est signé en 1986 par Jacques Chirac. 1992, le traité de Maastricht est négocié et signé par Bérégovoy, Dumas, Mitterrand. 1993, c'est Édouard Balladur qui réalise l'indépendance de la Banque de France, qui est une condition sine qua non pour entrer dans l'euro. 1995, c'est Juppé qui est aux manettes pour piloter la première phase de la qualification pour l'euro. 1997, ce sont DSK et Jospin qui vont assurer la deuxième phase. 1998, ce sont Chirac et Jospin, main dans la main, qui signeront le passage effectif à l'euro. Donc là, il y a un trait qu'on peut faire passer entre tous ces points qui est d'une remarquable continuité.
Et voici le bébé de show pour les RIE, les socialos. Les RPR crack et les fachos, ce sont tous des rigolos. Ouh, ouh, ouh.
Venaient ensuite Charles Pasqua et Robert Pandreau. Ambiance plutôt bon enfant avec la presse. Une ambiance contrastant avec l'atmosphère qui régnait dans le salon Murat. À l'ordre du jour, un seul point, un seul, l'organisation des travaux du Conseil des ministres. Finalement, ce premier conseil de l'époque de la cohabitation n'aura duré que 25 minutes. À sa sortie, Jacques Chirac a esquissé un sourire, mais il n'a fait aucune déclaration. Tous les ministres, sans exception d'ailleurs, sont restés muets.
Est-ce que c'est un moment clé, ça aussi, François, Cusset ?
D'abord, c'est le début de la cohabitation, hein, cette expérience inédite dans l'histoire politique française, avec la victoire de la droite législative et donc un gouvernement Chirac sous présidence Mitterrand. Au début, on pense effectivement convergence, quand même, là aussi, des programmes politiques et des idées de fond, et que ça devrait donc se passer à peu près bien. Et puis, surprise, en juillet, Mitterrand refuse de signer les ordonnances donc, de privatisation ou dénationalisation, d'où cette crise, effectivement, presque de régime, hein, parce que là, le Chirac fera usage du 49-3 et passera outre. Mais voilà, il y a tension forte.
La privatisation devant les députés, pas de surprise, 49-3 et motion de censure. Au menu de l'Assemblée nationale, le projet sera adopté la semaine prochaine. Hino remporte l'étape contre la montre, mais Greg LeMond bétonne son maillot jaune au terme de cette 20e étape.
C'est intéressant, je ne sais pas trop quelle lecture en faire. La lecture un peu cynique, c'est de dire que génie politique quand même sans égal de Mitterrand, qui va accumuler...